réhabilite l'armistice de 1940, affirme Éric Zemmour. Au fond, Pétain a fait la même chose qu'en 17, il a gagné du temps pour attendre les Américains. Ou ceci, les premiers à rejoindre la France libre sont majoritairement issus de l'extrême droite, notamment de l'Action française. Ou encore, Pétain a sauvé 95% des Juifs français. La guerre civile, c'est les communistes qui l'ont commencé, tuer des soldats allemands dans la rue, c'est de la résistance. De Gaulle, Pétain, 40-42, puisqu'il faut encore rouvrir et clarifier les dossiers.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Intelligence Service, nous sommes des passeurs d'histoire. Alors qu'Éric Zemmour s'est constitué instituteur national, nous tenons à bien redire ce qu'est un historien. Nous allons en entendre trois aujourd'hui, Annette Becker, Eric Jennings, Benjamin Stora. Il se trouve qu'ils sont universitaires, mais il arrive que des non-universitaires puissent devenir des historiens. Ce qui est déterminant, c'est la disponibilité aux faits tels que les documentent les archives. Fréquentation des archives, disponibilité aux faits, mise à distance des idéologies. On attend cela de qui se prétend historien. Benjamin Stora.
Le travail historique qui permet à chaque fois de compléter, de réviser, d'augmenter, etc., se fait en fonction, bien sûr, des ouvertures d'archives et naturellement aussi des discussions que mènent les historiens entre eux, à travers des colloques, à travers des séminaires, à travers des jurys de thèse, des publications d'articles dans des revues scientifiques. C'est ça qui fait le métier d'historien. C'est tout cet environnement-là. C'est pas simplement le fait d'écrire un essai. Mais c'est de se confronter à ses pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire de participer effectivement à des rencontres académiques, des rencontres scientifiques, et de mettre à l'épreuve, disons, d'autres participants, ses propres découvertes scientifiques. Sinon, il n'y a pas de travail historien. Il s'agit simplement d'un travail, à ce moment-là, de pamphlétaire, d'essayiste, qui rassemble des documents déjà écrits par d'autres et qui publie des livres.
Ouvrons donc le premier dossier, l'armistice de juin 40.
Le maréchal Pétain, 25 juin 1940.
L'armistice est conclu. Les conditions auxquelles nous avons dû souscrire sont sévères. Une grande partie de notre territoire va être temporairement occupée. Le gouvernement reste libre. La France ne sera administrée que par des Français.
Et le lendemain, le général de Gaulle.
Monsieur le maréchal, par les ondes au-dessus de la mer, c'est un soldat français qui va vous parler. Non sans émotion, j'ai écouté ce que vous disiez aux Français pour justifier ce que vous avez fait. On vous avait fait croire, monsieur le maréchal, que cet armistice demandé à des soldats par le grand soldat que vous êtes serait honorable pour la France. Je pense que maintenant, vous êtes fixé. Cet armistice est déshonorant.
Éric Zemmour justifie, et il n'est pas le seul, le choix que Pétain, chef du gouvernement le 16 juin, fait de signer un armistice concernant toutes les forces françaises. Ce qui évite à beaucoup d'entre elles, c'est vrai, une capitulation jugée honteuse, mais en empêche d'autres de rester disponibles au combat contre l'Allemagne nazie, dans la marine, dans l'Empire. Éric Zemmour est par bien des aspects un nostalgique de cet Empire. Il ne se passait pas un jour sans que le maréchal n'en parle. Et en effet, à ce moment tragique de notre histoire, ce n'était pas rien. Éric Jennings, franco-canadien et professeur à l'Université de Toronto.
La plupart des manuels scolaires montraient la planète divisée entre les grands empires coloniaux. Alors le plus souvent, la partie rose ou rouge signifiait donc les colonies et les territoires d'outre-mer britanniques, et la partie bleue, les territoires d'outre-mer français. Entre donc la déclaration de guerre de 39 et la bataille de France de mai-juin 40, pendant cette période de drôle de guerre, vous allez avoir une sorte de réunion de ces deux couleurs assez incroyable, Et cela a des significations majeures pour le général de Gaulle, puisque lui voudrait évidemment continuer le combat outre-mer. Et le fait que l'armistice couvre l'empire colonial, en fait, l'empêche plus ou moins, dans un premier temps en tout cas, d'arriver à ses fins. Donc il y a quand même quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue comparatif, puisque on le sait, les colonies belges et néerlandaises vont essentiellement passer dans le camp britannique et américain. C'est-à-dire que les colonies belges, néerlandaises et danoises vont être protégées par ces alliés, ou tout au moins vont bénéficier la cause alliée avec leurs ressources naturelles. Donc il y a une exceptionnalité française en matière d'armistice, qui va peser très lourd en matière coloniale.
Au mois de juillet 40, Pétain, replié maintenant à Vichy, s'est vu confier les pleins pouvoirs par quelques 600 parlementaires convoqués au Grand Casino et mis sous pression. La Constitution, la République même, sont invalidées. À la place, l'État français. De Gaulle, de son côté, affirme en octobre « L'organisme SI à Vichy est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur ». Et il affirme cela depuis Brazzaville, la tête de pont des quelques territoires ralliés à sa cause, notamment en Afrique équatoriale.
Alors, il faut bien reconnaître que le général de Gaulle, en 40, n'avait vraiment aucune légitimité internationale. Il avait le soutien de Winston Churchill, qui était un soutien, je dirais, presque personnel plus que national. Mais à part ça, rien. Aucun autre pays ne le reconnaissait. Même le Canada gardait une porte ouverte à Vichy. Bref, il fallait donc...
Bref, parce que vous êtes Canadien.
Oui, exactement. il fallait donc faire en sorte que la légitimité puisse changer de camp. Pour ce faire, il fallait absolument construire une légitimité et aussi un État français libre, j'allais dire presque pluricontinental, qui englobe donc toutes les colonies passées à ce qu'on appelait alors la dissidence, à savoir le Pacifique, l'Inde et évidemment l'Afrique équatoriale française et le Cameroun. C'est ce qui va se passer de façon assez remarquable. Le général de Gaulle va avancer l'argument selon lequel la vraie France, entre guillemets, eh bien, elle est passée des berges de la Seine aux berges du fleuve Congo en 1940.
Éric Jennings, non sans provocation, aime à dire que le portrait type du Français libre en 40-41, c'est un soldat volontaire noir qui s'apprête à combattre pour de longues années sur le continent africain. Éric Zemmour, lui, affirme que le portrait type, c'est à Londres un militant venu de l'extrême droite, dégoûté de la République des partis qui a mené à la défaite. Alors c'est vrai, les premiers Français libres, souvent très jeunes, n'avaient que faire des jeux politiques. Ils s'engageaient dans un corps militaire. C'est vrai, les officiers qui allaient les commander sortaient souvent du moule de l'Action française. Mais si un officier de la fraction droitière de la France libre se hasardait à refuser un volontaire juif ou socialiste, de Gaulle mettait de suite le holà. La France libre était accueillante à tous les patriotes. Bon, les représentants des élites étaient autrement nombreux que ceux du peuple dans la France libre. Mais là encore, de Gaulle laissait les portes ouvertes. Jamais, par exemple, en 40-41, les radios qu'il contrôlait n'ont critiqué le Parti communiste, encore ligoté par le pacte germano-soviétique. Il fallait que la coalition de demain reste possible. Et d'ailleurs, à Londres, la fraction de gauche gagne en importance, tandis que le visiteur clandestin de l'été 41, Jean Moulin, rappelle l'importance de la tradition républicaine. Le général l'a fait sienne dans un important discours le 15 novembre 1941.
Mes chers amis, nous sommes en ce moment dans l'Albert Hall. L'Albert Hall est une espèce d'énorme bâtiment qui se trouve dans le milieu de Londres devant un énorme parc. Au-dessus de l'estrade, une immense bande de toile porte inscrite la formule que vous connaissez si bien. Aujourd'hui, 510e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Le général de Gaulle se lève. Il est en uniforme kaki, sans décoration. Toute la salle se lève pour l'applaudir. Il va commencer à parler.
Ce que nous sommes, il est extrêmement simple de donner la réponse. Il y aura demain, 17 mois, que la question a été posée et qu'elle a été résolue. Nous sommes des Français de toute origine, de toute condition, de toute opinion qui ont décidé de se réunir pour mener la lutte pour leur pays.
Et le général va relever la devise de la République.
Il me semble qu'il est maintenant nécessaire que nous affirmions devant nous-mêmes et devant les autres quelle est notre politique. Nous pensons et nous savons que l'immense majorité des Français, dont nous ne nous séparons pas, bien au contraire, que l'immense majorité des Français a condamné définitivement à la fois les abus inadmissibles d'un régime en décadence et à la fois l'odieuse tyrannie qui a été instituée par des maîtres esclaves de l'ennemi, leur caricature de loi, leur marché noir, leurs serments imposés, leur discipline par délation, leur microphone dans les anticamps. La nation a condamné tout cela pêle-mêle et nous espérons et nous désirons que du plus profond du pays se lève un jour une vague grondante et salubre qui balaye les causes du désastre pêle-mêle avec l'échafaudage bâti sur la capitulation. Nous disons liberté, égalité, fraternité, parce que nous voulons rester fidèles aux grands principes démocratiques qui ont été tirés par nos ancêtres du génie même de notre race et qui sont aujourd'hui l'enjeu formidable de cette guerre pour la vie ou pour la mort.
Liberté, égalité, fraternité. Voilà une devise bien différente de celle de Pétain, travail, famille, patrie. L'occasion d'ouvrir notre deuxième dossier. De Gaulle aurait été le glaive et Pétain le bouclier. Et ils auraient été liés par une connivence dissimulée.
Le premier, dès 1947, à vouloir instiller dans l'opinion cette idée qui permettait aux anciens pétinistes de dormir sur leurs deux oreilles, a été un ex-chef de réseau, le colonel Rémy, par ailleurs monarchiste convaincu. Il finira dévot du maréchal, mais en 1947, il est encore proche du général. Il l'entend lancer une fois cette boutade. « Voyez-vous, Rémy, il faut que la France ait toujours deux cordes à son arc. » Il lui fallait alors la corde de Gaulle, mais il lui fallait aussi la corde Pétain. Le colonel Rémy inscrit cette phrase dans un livre qu'il fait lire sur manuscrit à de Gaulle. Et aussitôt, le général note en marge « Scabreux, il aurait fallu que Pétain s'opposât aux exactions de l'ennemi ». Et le lendemain, son aide de camp, Claude Guy, écrit ceci dans son journal.
Mercredi 26 novembre 1947. L'annotation manuscrite du général, page 13, fut l'objet entre lui et moi de la conversation suivante, en auto, cet après-midi. Lui, l'air lointain, mais je crois fort vigilant. Guy, avez-vous rendu son manuscrit à Rémy ? Oui, mon général. Lui, avez-vous montré mes trois corrections ? Nous les avons lus ensemble. Bon. Mais en tiendra-t-il compte, au moins ? Voyez-vous, le mieux serait pour la France, sur la corde Pétain, qu'il la supprime ou qu'il la reprenne à son compte. Je le lui demanderai dès ce soir, mon général. Ici, un assez long silence. Voyez-vous, Guy, ce genre d'écrit présente un inconvénient. On se saisit ici ou là d'une phrase qui n'avait le plus souvent que la valeur ou la portée d'une boutade dans la bouche de celui qui l'a prononcée, mais on en tire gravement des conséquences. D'abord, le hachis ne restitue pas le bœuf. Et puis, surtout, on présente involontairement le hachis de telle manière qu'il prend l'importance d'un plat de résistance.
Rémi Hachis. La même thématique fut pourtant reprise par un autre auteur à succès, Robert Aron, écrivain prolifique, juif affiché, qui fut même appelé à l'Académie française, Benjamin Stora.
Robert Aron avait beaucoup travaillé sur le Vichy de fin juin à octobre 40. Et au détriment du Vichy ultérieur, c'est-à-dire sur le Vichy qui va instaurer les lois raciales, antisémites, etc. Et donc, en mettant exclusivement l'accent sur la question de que fallait-il faire, en mai-juin 1940, dans le fond, il n'y avait pas de choix, il fallait aller serrer la main d'Hitler, et il n'y avait pas d'autre possibilité, d'autre choix, eh bien, Henri Michel dit non, il y a un seul et même ensemble sur Vichy. C'est-à-dire qu'on ne peut pas découper le Vichy de mai à octobre 40, mais il faut voir le Vichy qui continue et qui promulgue un certain nombre de lois qui sont des lois, disons, qu'on connaît tous, enfin des lois terribles. Et ça, c'est écrit dans les années 60 par Henri Michel.
Alors ensuite, paraît, en 1973, La France de Vichy de Robert Paxton, qui creuse davantage encore le sillon de la responsabilité de l'État français. Éric Zemmour, discret sur Henri Michel et les travaux du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, tombe à bras raccourcis sur Paxton. Qu'un Américain, un étranger, se mêle de nos affaires, l'irrite peut-être. La contribution majeure de Paxton est résumée ainsi dans Le suicide français. Sa thèse repose sur la malfaisance du régime de Vichy, reconnu à la fois responsable et coupable. L'action de Vichy est toujours nuisible et tous ses chefs sont condamnable. Ça, c'est donc le point de vue d'Éric Zemmour sur Paxton. Celui d'Annette Becker, historienne émérite des deux guerres et des violences de guerre.
Tout d'un coup, un historien, et c'était un historien américain, lisait des archives allemandes pour comprendre la situation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faisait ce qui est devenu banal aujourd'hui. Il mondialisait la Deuxième Guerre mondiale. Mais à l'époque, on avait une vision tellement franco-française qu'on ne voyait les choses que par la France. Et on les voyait, d'une façon dont il va sortir aussi, on les voyait par la justice. C'était finalement, est-ce que Pétain était un traître ou est-ce que Pétain n'était pas un traître? C'était à partir de ça que l'on travaillait. Et lui nous disait, c'est pas ça le problème. Allons voir ce qui a été fait, allons voir ce qui a été dit. La collaboration était nécessaire à la Révolution nationale. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Jusque-là, on avait l'impression qu'il y avait un régime qui essayait de faire les choses pour la France et que par ailleurs, il y avait la collaboration et qu'on l'avait forcé à faire des choses. Et lui disait non. C'est parce que le régime veut faire cette révolution nationale qu'il collabore. C'est nécessaire, les deux vont ensemble. Et donc, la démonstration de Paxton s'illumine. Puisque le régime ne peut faire sa révolution nationale que par la collaboration, il est bien clair que dans la révolution nationale, il y a la collaboration avec l'extermination, avec le désir génocidaire et l'extermination des Juifs, qui est celle des nazis. Et c'est donc pour cela que le livre de Paxton a été si important et qu'il le reste.
Intelligence, service, Jean Lebrun.
Troisième dossier, Pétain et les Juifs. Les Juifs de France et les Juifs de l'étranger.
Les Juifs de France et les Juifs venus de l'étranger. C'est une distinction qu'on va retrouver dans l'entourage de Pétain. En octobre 1940, une première loi est publiée à Vichy qui permet la détention des Juifs étrangers dans des camps qui vont se multiplier. Alors on nous dit que les étrangers étant ciblés, les Juifs français seraient protégés. Pourtant, apprenant qu'une ordonnance allemande va régir la vie des Juifs de zones occupées. Le gouvernement de Vichy veut prendre l'occupant de vitesse en édictant son propre statut des Juifs. C'est chose faite dès octobre 40 avec un texte rédigé, on ne sait pas bien par qui. Le processus législatif est devenu opaque. On a cependant retrouvé en 2010 une version intermédiaire annotée de la main du maréchal lui-même. C'est dire qu'il portait attention à ce statut. Et toutes ces remarques personnelles visaient à l'aggravation du texte, lequel interdit aux Juifs quantité de fonctions, électives et autres, quantité de professions, tout membre du personnel enseignant, ajoute ainsi le maréchal. De nombreuses lettres lui seront envoyées pour protester contre ce statut, puis contre la batterie de textes qui ensuite va se multiplier. Une des plus fortes missives, c'est celle de Pierre Masse, avocat, modèle parlementaire.
Paris, le 20 octobre 1940. Monsieur le maréchal, j'ai lu le décret qui déclare que les Israélites ne peuvent plus être officiers, même ceux d'ascendance strictement française. Je vous serais obligé de me faire dire si je dois aller retirer leur galon à mon frère, sous-lieutenant au 36e régiment d'infanterie, tué à Douaumont en avril 1916, à mon gendre, sous-lieutenant au 14e régiment de dragons portés, tué en Belgique en mai 1940, à mon neveu, Jean-Pierre Masse, lieutenant au 23e colonial, tué à Rethel en mai 1940. Puis-je laisser à mon frère la médaille militaire gagnée à Neuville-Saint-Vaast avec laquelle je l'ai enseveli. Mon fils Jacques, sous-lieutenant au 62e bataillon de chasseurs alpins, blessé à Soupir en juin 1940, peut-il conserver son galon ? Suis-je enfin assuré qu'on ne retirera pas rétroactivement la médaille de Sainte-Hélène à mon arrière-grand-père ? Je tiens à me conformer aux lois de mon pays, même quand elles sont dictées par l'envahisseur. Veuillez agréer, monsieur le maréchal, les assurances de mon profond respect. Pierre Masse, ancien capitaine au 36e régiment d'infanterie, officier Légion d'honneur Croix de guerre, ancien secrétaire d'État à la justice militaire.
Voilà un homme qui va payer cher son insolence. Un bon lieu d'observation, qu'ignore et pour cause Éric Zemmour, ce sont les colonies, qu'en 40-41, Vichy conserve nombreuses. L'empire colonial, c'est le régime de Pétain à l'état pur. Ici ne s'exerce pas de pression allemande significative. Or, l'État français, s'attaquant au vernis républicain qui justifiait la colonisation, va apparaître dans sa nature ségrégationniste sans complexe. Éric Jennings.
Moi, ce qui m'a intéressé dans mon premier ouvrage, Vichy sous les tropiques, c'est cette espèce de machine à copier la révolution nationale outre-mer que devient le ministère des colonies, qui applique à la lettre des consignes, par exemple, antisémites, même sur des territoires où il n'y a pas de personnes juives, ce qui est assez sidérant. Donc oui, il y a un rôle très important joué par les gouverneurs. Très clairement, il y a une recrudescence de certaines formes de racisme, ce que Frantz Fanon a pu décrire par exemple comme un racisme décomplexé aux Antilles sous Vichy. Ce n'est pas le seul endroit, bien entendu, on le retrouve également en Afrique occidentale française notamment.
Au point qu'aux Antilles que vous évoquez, il y a des habitants noirs qui ont été pris d'inquiétude. Est-ce que l'esclavage ne va pas être rétabli ? En même temps que, vous citez l'exemple de Madagascar, le travail forcé est étendu à Madagascar.
C'est bien ça. Donc vous avez sur tous les territoires fidèles, entre guillemets, à Vichy, un durcissement très net des pratiques coloniales. Ça ne fait aucun doute. Et en l'occurrence, aux Antilles, comme vous le suggériez à l'instant, cela rappelle d'autres retours en arrière. Pour les Antillais, ce retour à des pratiques très dures, très coercitives dans les champs de canne à sucre, par exemple, le fait que les autorités locales répriment, par exemple, entre guillemets, le vagabondage de façon très dure, et bien tout ça renvoie à un autre durcissement par le passé, à savoir le retour sur l'abolition et pourquoi pas le retour à l'esclavage. Il y a des rumeurs qui courent dans ce sens sur plusieurs localités martiniquaises et guadeloupéennes courant 1941-1942. Pour moi, très clairement, le régime de Vichy s'est montré anti-assimilationniste dans la mesure où, par exemple, il prend des contextes où les Antillais, pour ne donner qu'un exemple, ou les Réunionnais ou les Guyanais sont citoyens français à part entière depuis 1848, où les hommes de ces territoires, quelle que soit leur couleur de peau, peuvent voter depuis 1848, et de fait, les dénaturalisent, puisqu'il n'y a plus d'élections, il n'y a plus de droits, les maires sont révoqués, les élus sont révoqués, les conseils régionaux sont révoqués. Pour moi, c'est tout le contraire de l'assimilation de ce point de vue.
Alors, on va prendre territoire par territoire l'application, si vous le voulez bien, du statut des Juifs. Au Tonkin, une partie de l'Indochine, il y aurait 80 Juifs, ce qui déclenche un zèle particulier du proconsul de l'amiral de Kou. 80 Juifs, c'est pas beaucoup.
Oui, voilà. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est que même dans un territoire comme Saint-Pierre-et-Miquelon, où on ne recensait à l'époque aucune personne juive, les consignes sont appliquées. C'est-à-dire les consignes, par exemple, le numerus clausus. Ça n'a aucun sens. Et comme vous le disiez, en Indochine, on sévit. Et on sévit à tel point que cela devient totalement irrationnel, même du point de vue d'un antisémite. À titre d'exemple, l'amiral de Kou commence à se demander s'il est vraiment sage de révoquer les quelques militaires de confession juive, alors que l'armée locale pourrait faire face à un autre coup de main japonais à tout moment. Donc vous voyez qu'il y a un effet de boomerang dont même les autorités locales vichistes sont conscientes, et elles s'emploient tout de même, malgré ces aberrations, à appliquer ces textes.
Voudriez-vous une pause? Je vous propose d'écouter Joséphine Baker. Ben, pourquoi? Parce que vous avez besoin d'un peu de lumière. Elle est panthéonisée le 30 novembre 2021. Et puis, agent secret de la résistance, elle a été basée à l'époque en Afrique du Nord. On va venir à l'Afrique du Nord, où résident 400 000 juifs dans un instant.
On dit qu'on est là.
En Algérie, les Juifs, même s'ils n'y sont jamais allés, sont attachés à Paris. Et d'autant plus attachés à la France que depuis 70 ans, la nationalité leur en a été accordée par le décret Crémieux, contemporain de l'instauration de la République. décret qui a fait des mécontents. Les communautés européennes, juives, arabes, quand elles ne s'évitent pas, s'opposent volontiers en Algérie. À la fin des années 1930, une organisation nommée Rassemblement National a ainsi fédéré les nombreux groupes qui, chez les Européens, luttent à la fois contre les Juifs et les communistes. En octobre 1940, le régime de Vichy satisfera cette partie importante de l'opinion en abolissant le décret Crémieux. Les Juifs se retrouvent dénaturalisés. En même temps, paraît le texte du statut, non seulement dénaturalisé, mais discriminé. Un témoin, Jacques Zermati.
Les mauvaises nouvelles se précipitaient. Les enfants avaient été mis à la porte des écoles, tous les enfants, depuis la maternelle jusqu'aux classes supérieures. Il y avait dans ce domaine, je l'ai appris, un numerus clausus extrêmement étroit pour l'université. Les fonctionnaires avaient été chassés de la fonction publique. Les gens qui exerçaient des professions libérales, avocats, médecins, ne pouvaient plus l'exercer que dans des conditions extrêmement étroites. Les commerçants avaient vu arriver un beau matin des administrateurs des biens juifs et étaient dépossédés de leurs biens.
Et maintenant, José Aboulker, qui sera grand professeur de médecine et un pionnier de la résistance en Algérie.
Et on a proposé aux Arabes, comme aux Européens d'Algérie, d'acheter les biens juifs qui étaient saisis et sur lesquels on nommait un administrateur provisoire. C'était chaque fois une très bonne affaire, parce que c'était donné pour des sommes dérisoires et les gens faisaient des bénéfices. On a fait passer une consigne dans les mosquées. N'achetez pas de biens juifs, ce sont nos frères dans le malheur. Il n'y a pas eu de biens juifs achetés par des Arabes. Cherchez un autre exemple d'une dignité collective comme celle-là. Moi, dans l'histoire de cette guerre, en tout cas, je n'en ai pas trouvé.
Benjamin Stora, qui a fait tant pour l'histoire de l'indépendantisme algérien.
Les trois principaux courants, je parle des courants politiques, hein, je ne parle pas en bas hein, des personnes indigènes, musulmanes, etc. Mais les principaux responsables des courants refusent la collaboration. Mais Ali Hadj refuse la collaboration, il est arrêté, emprisonné, ses biens sont confisqués, il est condamné à 16 ans de travaux forcés, déporté.
Mais Ali Hadj, c'est le fondateur du premier vrai
du
courant,
premier grand courant
autonomiste
nationaliste.
Indépendantiste.
Voilà, indépendantiste algérien, il est arrêté, il refuse la collaboration, c'est très clair. Alors évidemment, à l'intérieur de son parti, les gens ne sont pas d'accord. Ils vont collaborer, bien sûr, ils vont désavouer Mais Ali, c'est vrai. Hein, il y aura des groupes collaborationnistes à l'intérieur du mouvement nationaliste. Ferhat Abbas aussi est un grand dirigeant. C'est un grand dirigeant musulman, républicain, qui a été assimilationniste aussi. Hein. Lui, il était pour l'extension, quelque part, du décret Crémieux, appliqué aux élites musulmanes. Ferhat Abbas, après avoir hésité, après s'être adressé à Pétain, va donner l'ordre qu'on ne s'attaque pas, disons, à ces juifs qui ont été, entre guillemets, déclassés sur le plan juridique. Et puis il y a le mouvement des oulémas. Les oulémas, c'est les réformistes religieux, c'est très important en Algérie. Et qui ne donnent pas, disons, d'ordre de s'attaquer aux juifs. Et je parle de ces trois grands mouvements, hein, de ces trois principaux mouvements. Les principaux responsables, les principaux dirigeants, dans le fond, entre guillemets, ne profitent pas de cette abrogation du décret Crémieux. Pourquoi ? Parce qu'ils se méfient d'une chose, et c'est Ferhat Abbas, je crois, qui le dit, il faut faire attention, regardez ce qui est arrivé aux Juifs. Ils ont demandé la nationalité française, ça leur a été retiré au bout de 4 ou 5 générations. Donc méfiez-vous. Et Messali le dit aussi de la même manière, attention, la France vous donne d'une main ce qu'elle peut reprendre de l'autre.
En tout cas, la question mérite d'être posée. Que serait-il advenu des Juifs persécutés d'Algérie, et plus généralement d'Afrique du Nord, si les Alliés n'y avaient débarqué en novembre 1942 ? Après ce débarquement, les Alliés soutiennent le général Giraud, qui, prétextant sa connaissance du pays, et disant qu'il fallait tenir égal la balance entre les Juifs et les Arabes, ne voulait pas revenir sur l'abrogation. C'est le général de Gaulle qui, quand il prend le contrôle du gouvernement provisoire en Algérie, abroge l'abrogation. Donc il est difficile de continuer à présenter imperturbablement Pétain et de Gaulle comme les deux faces d'une même médaille. Éric Zemmour dit d'ailleurs, je devrais être le premier, puisqu'il appartient à une famille juive d'Algérie, à me plaindre du régime de Vichy, mais sans doute, la mémoire de la guerre d'Algérie à l'issue de laquelle les juifs d'Algérie vont devoir partir a-t-elle recouvert chez beaucoup d'entre eux le souvenir de la période calamiteuse de l'État français de Vichy.
Que penser en France même de la distinction que fait Pétain entre les bons vieux juifs de France et les juifs venus de l'étranger?
Des juifs étrangers, Pétain voulait clairement se débarrasser. Mais des juifs de France? Ah, vous devez être bien malheureux, dit-il au grand rabbin quand il le reçoit en mars 1941, et il se répand en assurances répétées « Je prendrai soin de mes bons vieux juifs de France ». Seulement le même mois, mars 41, il accepte la création d'une administration clé, le commissariat aux affaires juives, qui va assurer le fichage des juifs, constituant ainsi un réservoir de déportables dans lequel les Allemands vont pouvoir puiser quand ils le voudront. C'est ainsi qu'on retrouvera, plus tard, dans le même convoi, le père de Jean Ferrat, Mnacha Tenenbaum, joaillier russe qui se croyait protégé par sa naturalisation récente, et Pierre Masse, l'avocat, vous vous souvenez, ce bon vieux juif de France qui avait eu le cran d'écrire des lettres de protestation à Pétain et qui avait été parmi les premiers ciblés pour délit d'anti-maréchalisme.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Intelligence, service. Jean Lebrun.
Pierre Masse, avant d'être déporté, s'était retrouvé au camp de Compiègne, englobé dans les rangs des 743 hommes arrêtés dans la rafle dite des notables. Rafle peu connue qui eut lieu dès le 12 décembre 1941, bien avant celle qui eurent davantage d'écho de l'été 42. Après Pearl Harbor, la guerre se mondialisait. On montait partout aux extrêmes. Les Allemands en France toléraient de plus en plus mal les attentats. À ce sujet, Éric Zemmour écrit que De Gaulle critiquait les communistes qui les multipliaient. Ben, c'est plus compliqué puisque le général observe en octobre 41 « Si les Allemands ne voulaient pas recevoir la mort de nos mains, ils n'avaient qu'à rester chez eux. » Eux, en tout cas, n'hésitaient pas devant les représailles. C'est ainsi que sont raflés, en ce jour de décembre 1941, de bons vieux juifs de France, pour reprendre l'expression du maréchal, souvent de vieille ascendance, exerçant de hautes fonctions. Annette Becker.
La décision d'arrestation est bien une décision allemande. Les autorités d'occupation, les militaires allemands. Sauf que les militaires allemands n'ont absolument aucune possibilité de trouver les juifs qu'ils veulent arrêter. Et donc, bien évidemment, le statut des juifs, le fichage des juifs est mis à leur disposition par les autorités françaises. Et c'est là que l'on voit que dès 1941, eh bien, la politique de collaboration dans la politique anti-juive est déjà parfaitement organisée.
Les conditions de détention dans la zone C du camp de Compiègne sont pires que celles que connaissent les juifs étrangers dans les camps de Beaune-la-Rolande ou du centre de la France. Les hauts fonctionnaires, les directeurs d'entreprises qui sont là, entassés demandent à leur famille de la nourriture, des vêtements, mais aussi qu'on leur envoie leurs décorations. Oui, parce que, répétons-le, il s'agit de hauts fonctionnaires, de directeurs d'entreprise, dans le cas de Pierre Masse, d'ancien parlementaire, Pierre Masse qui va donner des conférences dans le camp et organiser une sorte de tribunal, parce que le droit français doit continuer, qui juge les délits que les déportés peuvent commettre entre eux. Mars 1942, le convoi numéro 1 en direction d'Auschwitz s'arrête en gare de Compiègne pour faire monter de force les victimes de la rafle des notables. Une cérémonie à Compiègne, là où s'élève maintenant un mémorial, en 1945.
Du fond de la nuit, le wagon s'avance. Il roule lentement vers le heurtoir, dans le grincement de ses essieux. Il est tout rouge du sang déporté que tu y laissas. Pleurons sur ces ombres fouettées qui s'entassent, sur ces corps fluides que nous imaginons se hissant, sur ceux que nous avons perdus, et qui, par un soir comme ce soir, sont partis de cette gare. Ne les attendons pas dans le brouhaha joyeux d'un retour. Écoutons leurs noms, écoutons tes noms, parmi des milliers d'autres. Montez, montez dans le wagon maudit. Bruit des portes du wagon qui se ferment sur un chargement d'humains.
Il y avait énormément de malades. Ceux qui sont montés de Compiègne, là, ils ont passé l'hiver dans un piteux état, là. Puis ils avaient des colis, ils ont tout mangé, là. Et c'était triste de voir ça.
Parmi ceux qui montent dans les wagons du convoi, à Compiègne, un haut magistrat, le président Lamelé, qui avait été célèbre en 1939, au moment du procès de l'assassin en série Weidmann.
C'est une figure qui a tellement frappé le commissaire de police français, bien sûr, le commissaire de police de Compiègne, qui est chargé de convoyer le convoi depuis le camp de Compiègne jusqu'à la gare de Compiègne. Ça l'a tellement frappé qu'il a raconté cela. À un certain moment, sur le quai de la gare, l'un des hommes qui se trouvait dans le convoi m'a demandé le nom du procureur et du président du tribunal de Compiègne. Je dois dire, en m'arrêtant dans cette citation, que les hommes sont enchaînés deux par deux, menottés comme des criminels de droit commun pour rejoindre la gare. Il va de soi qu'ils ne savent pas encore où ils vont. Ils vont à Auschwitz, bien sûr, ils iront à Auschwitz. Et ils sont donc menottés, ils sont à peu près morts de faim, et il y a des passants qui leur jettent du pain. Et à ce moment-là, c'est le moment où Lamelé prend la parole. C'est parce que je suis moi-même magistrat, invité à me préciser son nom et l'endroit où il exerçait, il m'a répondu « Je suis monsieur Lamelé, conseiller à la Cour de Paris ». C'est moi qui ai présidé les assises lors du procès Weidmann. Puis, regardant dans la direction de son bras enchaîné et en hochant la tête, il ajouta « Et voilà, malgré cela, on reste toujours français. » Je tiens à préciser que s'ils étaient enchaînés, ce n'étaient pas les Allemands qui avaient voulu cela, c'était un commandant de gendarmerie français qui avait trouvé que, puisque c'était des criminels qu'on emmenait à la gare, eh bien, ils devaient être enchaînés. Les Allemands n'avaient même pas demandé cela.
Nous sommes au printemps 1942. Le commissaire de police de Compiègne observe que la population assiste au départ des convois, silencieuse, consternée, réprobatrice. L'été 42, au moment des plus grandes rafles qui peuvent concerner des enfants, l'Église de France fait enfin savoir qu'elle est à la limite de ce qu'elle peut supporter. Et dans l'entourage du maréchal, on constate que l'obéissance du régime de Vichy aux ordres allemands en matière de persécution antisémite risque de compromettre toute la politique du maréchal. Elle a aussi compromis sa mémoire. En mars 2012, cette fois, 70 ans plus tard, 3 enfants juifs sont abattus devant leur école à Toulouse. Le nom du terroriste est sans cesse répété, celui des enfants, beaucoup moins. 2 appartiennent à la famille Sandler. Je dis le nom pour Éric Zemmour, qui parfois dit Santander. Cette famille a choisi de faire enterrer 2 enfants, 2 des 3 victimes, à Jérusalem. Éric Zemmour, au nom de la théorie de l'assimilation, ou bien au nom de l'anthropologie, qui dirait qu'on appartient au pays où on se fait enterrer, a reproché à la famille Sandler ce choix. Samuel, le grand-père de 2 des enfants victimes, a écrit ceci.
Je voudrais dire plusieurs choses à Éric Zemmour. Je voudrais d'abord lui dire que je suis d'accord avec lui quand il explique qu'il est dommage que des membres de la famille Sandler ne soient pas enterrés en France. Je regrette en effet que les cendres de ma grand-mère, Pauline Walter, se trouvent aujourd'hui en Pologne, où elle a été déportée en mars 1943, alors qu'elle habitait au Havre. Je pense qu'elle aurait préféré être enterrée auprès des siens, en France, au cimetière de Wissembourg, dans le Bas-Rhin, où notre famille est inhumée depuis le XVIIIe siècle. Mon oncle André Loeb est resté au Havre. Il disait qu'il ne craignait rien en zone occupée. Il répétait « Je suis un ancien officier de l'armée française, j'ai fait la guerre de 14-18, donc il ne m'arrivera rien. » Il a été déporté en même temps que ma grand-mère Pauline, que ma tante Mina et que mon cousin Jeannot qui avait 8 ans. Ma sœur Léa a tout vécu, tout traversé. Jusqu'à son dernier jour, jusqu'à sa mort en Israël, elle me disait « Quand est-ce qu'on nous laissera tranquille ? »
Nos remerciements aux 3 historiens, Annette Becker, Eric Jennings, Benjamin Stora, dont on trouvera la liste des ouvrages sur notre site, les lectures Grégoire Roquelot, à la prise de son Vincent Désière, les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard et la réalisation Audrey Ripouille.